Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 27 novembre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. À la veille du premier anniversaire de la mort en martyr du savant atomiste iranien Mohsen Fakhrizadeh par une arme satellitaire israélienne et alors que l'Iran s'apprête à aller à Vienne exiger la levée des sanctions US, sinon annoncer la fin de sa coopération avec la IOA, le président iranien a tenu à exiger l'accélération du programme spatial iranien avec en toile de fond la mise en orbite géo des satellites iraniens. Au Yémen, Ansar Allah a enregistré des percées tactiques dans le sud de la province de Marib et le convoi militaire français au trajet perturbé depuis jeudi dernier par des manifestants au Burkina Faso a pu reprendre la route. C'était les principaux titres. En voici le journal. À la veille du premier anniversaire de la mort en martyr du savant atomiste iranien Mohsen Fakhrizadeh par une arme satellitaire israélienne et alors que l'Iran s'apprête à aller à Vienne exiger la levée des sanctions américaines, sinon annoncer la fin de sa coopération avec l'IOA, le président iranien a tenu à exiger l'accélération du programme spatial iranien avec en toile de fond la mise en orbite géo des satellites iraniens. Hier, l'industrie spatiale n'était que le symbole de la puissance des pays. Mais elle est aujourd'hui considérée comme l'un des moteurs économiques et dans un avenir proche, elle fera partie de l'infrastructure de gouvernance dans divers domaines du commerce, de l'économie et de la sécurité, a déclaré vendredi 26 novembre le président iranien Ebrahim Raisi. S'exprimant lors de la première réunion du Conseil supérieur de l'espace du 13e gouvernement qui s'est tenu après une décennie de suspension, le président iranien a souligné le rôle de ce conseil dans l'élaboration des politiques et la rédaction d'une feuille de route pour le développement de l'industrie spatiale du pays, avant d'ajouter le fait que la première réunion du Conseil supérieur de l'espace ait eu lieu après 11 ans témoigne de la détermination de ce gouvernement à donner de l'essor à l'industrie spatiale. Le président Raisi a remercié les activités du ministère des Communications et des Technologies de l'Information, du ministère de la Défense, du CGRI et de l'armée dans le domaine spatial. Grâce aux activités de nos jeunes spécialistes et professionnels, de bons efforts ont été faits dans le domaine de l'industrie spatiale, a-t-il indiqué. Aujourd'hui, les sociétés de la connaissance, l'industrie, le commerce, l'agriculture et le tourisme peuvent utiliser les services spatiaux pour se développer et résoudre les problèmes liés au changement climatique, notamment la pénurie d'eau. Bien sûr, pour atteindre cet objectif, il ne faut un programme d'au moins 10 ans. dans le cadre d'un plan précis et cohérent, nous devons avoir accès à une technologie développée pour OTP, orbite terrestre basse. Et dans la prochaine étape, nous devons passer rapidement au circuit de 36 000 km ou l'orbite géostationnaire abrégée GEO, à la lumière d'une planification minutieuse et d'un travail acharné, a précisé le président iranien. Selon Ebrahim Raisi, si nous ne sommes pas présents dans l'industrie spatiale et le cyberespace, nous devrons nous déplacer sur la voie tracée par les autres. L'industrie spatiale est capable de générer une forme de dissuasion pour le cas où certains souhaiteraient attaquer le pays, a souligné le président iranien Ebrahim Raisi. Le ministre kirghiz de l'économie et du commerce a annoncé le début du transit des marchandises du port iranien de Bandar Abbas vers le Kirghizistan. Le transit des marchandises a été lancé par les commerçants kirghiz de Bandar Abbas, a déclaré Daniyar Amangeldiev, ministre kirghiz de l'économie et du commerce, notant que le gouvernement iranien avait précédemment alloué des terres pour des marchandises de ce pays à Bandar Abbas. Les entreprises sont confrontées à des problèmes logistiques majeurs depuis le début de la pandémie et la Chine a suspendu ses activités logistiques avec les autres pays, a déclaré le ministre kirghiz. Les importations en provenance de Chine vers le Kirghizistan ont chuté depuis le début de la pandémie de COVID-19. En conséquence, le Kirghizistan, comme d'autres pays, manque de matières premières. Après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré le ministre kirghiz des Affaires étrangères, Ruslan Kazakbaev, en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, il a été annoncé que le gouvernement iranien avait alloué des terres pour stocker et faire transiter les marchandises de Bandar Abbas à Bishkek. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'en plus du terrain, le port fournira l'infrastructure nécessaire pour le transit des marchandises en provenance du Kirghizistan et les importations vers ce pays. D'autre part, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a annoncé le jeudi 25 novembre lors du sommet de l'ECS que la Nouvelle-Delhi prenait des mesures pour rendre le port de Chabahar opérationnel. L'Inde a pris des mesures pour rendre le port iranien de Chabahar opérationnel afin de fournir un accès commercial sûr et pratique en mer pour les pays d'Asie centrale, a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères. Nous avons également proposé que le port de Chabahar soit inclus dans le corridor de transport international nord-sud. En 2015, l'Inde a conclu un accord avec l'Iran sur le développement du port de Chabahar et la construction d'une ligne de chemin de fer reliant l'Inde à l'Afghanistan. Et en 2016, le premier ministre indien Narendra Modi a signé un accord d'investissement de 500 millions de dollars pour le développement du port de Chabahar lors d'une visite en Iran. Plus tôt, le ministère indien des Affaires étrangères avait suggéré que le port de Chabahar soit inclus dans le corridor international nord-sud pour favoriser un accès sûr et sans entrave aux pays d'Asie centrale. L'Inde est membre du corridor de transport international nord-sud qui vise à établir un réseau de transport entre des pays tels que l'Inde, l'Iran, l'Arménie, la République d'Azerbaïdjan, les pays de l'Asie centrale et la Russie. Au Yémen, le mouvement Ansar Allah a enregistré des percées tactiques dans le sud de la province de Marib. La nouvelle escalade militaire initiée par l'alliance saoudo-émiratie il y a quelques jours n'a pas réussi à stopper l'avancée des combattants yéménites à l'entrée sud de la ville de Marib. Les mercenaires fidèles au président démissionnaire Mansour Hadi ont perdu ces derniers jours davantage de leur position dans les collines de Balar orientale et centrale, malgré l'intensification des raids aériens lancés par la coalition saoudienne. Des sources militaires et tribales ont affirmé au journal libanais Al-Akhbar que les forces de Sanaa ont pu avancer dans de vastes zones en direction de la région de Falaj occidentale, située entre les collines de Balar orientale et centrale, après avoir pris le contrôle de toutes les hauteurs proches de la zone. En Syrie, le processus de la régularisation de la situation des civils recherchés, des déserteurs militaires et des personnes qui ont échappé aux deux services militaires et de réserve s'est poursuivi à Deir ez-Zor, au centre de régularisation dans la ville de Mayadine. dans des déclarations aux correspondants de Sanaa, un certain nombre de cheikhs et de dinters dans la zone de Mayadine ont indiqué que cette régularisation est une réelle opportunité pour tous ceux qui ne sont pas impliqués dans l'effusion de sang pour régulariser leur situation et revenir à la vie normale. Ali Abdelrader, l'un des dignitaires de la zone de Mayadine, a également appelé la population de la région d'Al Jazeera à rejoindre cette régularisation et à revenir à la vie normale. En outre, un certain nombre de personnes dont la situation a été régularisée ont fait savoir que le processus de régularisation de la situation a lieu en toute facilité. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires, des terroristes, ont attaqué à nouveau les villages sûrs adjacents aux zones qu'ils occupent dans le nord syrien, où ils ont visé vendredi matin aux roquettes plusieurs villages à proximité de l'autoroute internationale M4 et le village de Oshan, dans la banlieue de Raqqa. Des sources locales ont indiqué qu'un certain nombre de roquettes lancées par les forces d'occupation turques et ses mercenaires terroristes étaient tombées à la périphérie de l'autoroute internationale M4 et le village de Oshan, appartenant à la localité d'Aïn Issa, dans la banlieue nord de Raqqa, ce qui a causé des dommages aux cultures. Le convoi militaire français au trajet, perturbé depuis jeudi dernier par des manifestants au Burkina Faso, a pu reprendre la route. Il devrait entrer au Niger dans les toutes prochaines heures. Depuis une semaine, le convoi de la force Barkhane, stationné à quelques encablures de Kaya, retranché sur le site d'une société minière à l'abri d'une enceinte grillagée. Si le week-end dernier, un cordon des forces de l'ordre burkinabé faisait tampon entre les militaires français et les manifestants hostiles à cette présence française, la situation ces derniers jours a fini par s'apaiser. Les barrages dans Kaya, qui jusque-là empêchaient d'emprunter la route vers le Niger, ont peu à peu disparu. Les 80 véhicules chargés de frais de la force Barkhane ont donc pu reprendre leur route et traverser l'agglomération sans encombre. Le convoi militaire doit rapidement atteindre son but, Niamey puis Gao. Vers un apaisement des tensions Alger-Paris, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a prédit vendredi 26 novembre un retour à la normale des relations avec la France en pleine crise, à condition qu'elle se fasse sur une base d'égal à égal. Le président français Emmanuel Macron avait déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés le 2 octobre par le quotidien français Le Monde, accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle. Macron avait questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. En signe de protestation, l'Algérie a rappelé son ambassadeur en France et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français desservant le Sahel, où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. Interrogé sur cette crise diplomatique lors d'une interview avec des médias algériens diffusée vendredi soir, 26 novembre, par la télévision officielle, Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu'il faut bien que ces relations reviennent à la normale à condition que l'autre partie, c'est-à-dire la France, les conçoive sur une base d'égal à égal, sans provocation. Nous sommes d'accord pour qu'on traite l'un avec l'autre, pour ne pas nuire aux intérêts de chaque partie. Mais nous n'accepterons pas qu'on nous impose quoi que ce soit, a fait remarquer le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Missile, Tel Aviv en ligne de mire. Historique, Israël se barricade non seulement au niveau de ses frontières, mais aussi en Palestine. L'entité déclare la création de garde-frontières en Palestine ancienne après avoir annoncé que son armée ne traverserait plus ses villes en cas de guerre contre Gaza. Le régime a conçu un nouveau plan pour sécuriser ses forces armées dans le cas d'une future guerre, selon lequel des routes secondaires seront créées et la police sera assistée par des gardes-frontières dans toute éventuelle guerre. le journal Israel Hayom a écrit le mercredi matin que le chef du département de planification logistique de l'armée israélienne a annoncé le 12 novembre qu'en cas de nouvelle guerre sur les fronts nord ou sud, l'armée n'allait pas retirer ses forces de Wadi Ara qui se situe entre des villages arabes. Le journal a écrit que les remarques sur la construction des routes qui ne traversent pas les villes arabes font partie d'un plan intégré de l'armée israélienne pour se préparer à une future confrontation militaire. Le nouveau plan implique le recrutement d'unités frontalières affiliées à l'armée pour prendre le contrôle direct des zones avec l'aide des forces de police pour sécuriser les forces israéliennes dans les villes arabes de Jaffa, Al-Lat, Ramla et empêcher les Palestiniens de manifester, ce qui s'est produit lors de la récente attaque israélienne en mai. Le plan comprend également le recrutement des troupes parmi les unités de réserve du commandement du front interne pour accompagner le convoi d'armes et de matériel militaire et même les troupes elles-mêmes qui doivent être stationnées dans diverses zones du territoire occupé. Le plan, qui n'a pas encore été finalisé, prévoit de trouver des solutions pour augmenter le nombre de forces de police à déployer pour sécuriser les événements sur le front intérieur en territoire occupé. C'est un pari risqué quand on sait que les coups israéliens risquent désormais de provoquer des tirs de missiles visant directement Tel Aviv. Le secrétaire général du mouvement djihad islamique palestinien a averti le régime sioniste que s'il cherchait à assassiner ses dirigeants et ses membres, Tel Aviv sera bombardé par des missiles. Ziad al-Nakhala, le secrétaire général du djihad islamique, a déclaré ce mercredi: Israël considère Gaza comme une bombe à retardement et c'est dans l'objectif de désamorcer cette bombe qu'il promet de faciliter l'entrée des marchandises dans la zone et il est possible que le régime sioniste cherche à assassiner les dirigeants et les membres du djihad islamique. Dans ce cas-là, Tel Aviv sera bombardé par des missiles. Il a ajouté: la tâche la plus importante de la résistance est de défendre le peuple palestinien et Israël veut séparer Gaza de Rot et de la Cisjordanie. Le secrétaire général du djihad islamique a ajouté: la résistance ne devrait pas jouer le rôle d'un responsable des affaires menant les citoyens à travailler à l'intérieur des territoires occupés. Israël veut que Gaza et la Cisjordanie se transforment en un réservoir de travailleurs pour qu'ils abusent de leurs capacités lorsqu'il en a besoin et nous n'accepterons jamais ces conditions. Israël veut que le peuple palestinien se rende dans l'objectif de garder la ville sainte de Rots et la Cisjordanie sous son contrôle. La résistance a ravivé sa puissance militaire après la bataille de l'épée de Rots et en construisant des armements, elle a renforcé son arsenal d'armes et a montré qu'elle produit des drones à l'intérieur de la bande de Gaza. J'appelle les forces de résistance du camp de Jenin et d'autres régions de la Cisjordanie à faire leur devoir et à poursuivre leur résistance, a fait savoir le secrétaire général du djihad islamique Ziad al-Nakhala.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder en fait ce sommet sur la démocratie qui aura lieu à Washington. La Maison-Blanche a dévoilé la liste des invités, 110 pays sont invités à ce sommet. La Russie et la Chine sont les grandes absentes, si vous voulez, de ce sommet. Il y a eu en fait la réaction du côté de Pékin et du côté du Kremlin à ce refus, si vous voulez, du côté de Washington, de vouloir en fait inviter la Chine et la Russie à ce sommet. S'agissant, si vous voulez, de la réaction de la Russie, il y avait en fait cette déclaration du porte-parole de Kremlin, Dmitri Peskov, qui dit: notre attitude envers cet événement à venir et bien sûr négative. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative de tracer de nouvelles lignes de démarcation. Il y avait également cette réaction du côté de Pékin, du ministère chinois des affaires étrangères, qui a fait en fait part de son opposition à, si vous voulez, surtout de l'invitation de Taïwan à ce sommet. Les actions des États-Unis ne font que montrer en fait que la démocratie, ce n'est qu'une couverture et un outil leur permettant de faire avancer leurs objectifs et géopolitique. C'était en fait la réaction du côté de Pékin. On va vous en parler avec deux invités, mais avant de vous le présenter, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
La liste des 110 pays invités au sommet de Joe Biden voulant s'attaquer aux plus grandes menaces auxquelles sont confrontées les démocraties a été dévoilée par les États-Unis. La Russie et la Chine en sont les grandes absentes et ont émis de vives critiques. Le 23 novembre, le Département d'État des États-Unis a dévoilé la liste des pays conviés au sommet pour la démocratie organisé par le président américain Joe Biden. Des alliés des États-Unis, tels que la Pologne, le Brésil ou l'Irak s'y trouvent, la Russie, la Chine ou encore la Hongrie n'ont en revanche pas été conviés à l'événement qui réunira les représentants de 110 pays. Un choix d'invités qui met en exergue la nature très politique d'un sommet qui se veut pourtant rassembleur. Le premier épisode du sommet pour la démocratie se tiendra en visioconférence les 9 et 10 décembre prochains, avant une rencontre en personne l'an prochain. Selon le Département d'État des États-Unis, il réunira des dirigeants issus de gouvernements, de la société civile et du secteur privé afin d'établir un programme positif pour le renouveau démocratique et afin de s'attaquer par une action collective aux plus grandes menaces auxquelles sont confrontées les démocraties aujourd'hui. Il s'agit d'une promesse de campagne du président Joe Biden qui n'a pas caché depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier dernier que le combat entre les pays qu'il considère être des démocraties et ceux qu'il qualifie d'autocratie était au cœur de sa politique étrangère. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce 24 novembre au Kremlin, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a ainsi réagi au choix délibéré de Washington. Notre attitude envers cet événement à venir est bien sûr négative. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative de tracer de nouvelles lignes de démarcation. Nous avons lutté au début des années 1990 pour réduire et supprimer ces lignes de démarcation, mais désormais, malheureusement, les États-Unis préfèrent en créer de nouvelles et diviser les pays entre ceux qui sont, selon eux, bons et ceux qui sont mauvais, dans leur optique aussi, a expliqué le diplomate en estimant que cela ne correspondait absolument pas à ce qui se passe dans le monde.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission de débat. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un analyste politique, économiste, spécialiste des questions internationales, Xavier Dupré. Monsieur Dupré, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Et j'ai également le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre antenne.
M. Beurre, on va commencer avec vous de notre émission. Comment expliquez-vous cette réaction du Kremlin à, si vous voulez, ce sommet également à ce refus, si vous voulez, de Washington d'inviter, si vous voulez, la Russie à ce sommet?
Ça a été rappelé par le porte-parole du Kremlin, à savoir le porte-parole de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à savoir qu'on retourne à un lexique, à une forme de discours qui sanctifie le retour à la guerre froide. Donc, personnellement, je ne pense pas que nous sommes sortis de la guerre froide. Simplement, aujourd'hui, on y retourne et c'est officialisé en quelque sorte par ce sommet qui a été convoqué et défini par les États-Unis. Il a bien été indiqué que la Russie à la chute de l'URSS était dans un parcours et même dans un comportement au niveau international pour une meilleure intégration internationale. Ça a été le discours quand Poutine est arrivé au pouvoir au début des années 2000, où il tendait la main à l'Union européenne en disant « construisons ensemble une maison commune européenne de Vladivostok à Dublin et parlons de, donc de toutes les questions sécuritaires, économiques, énergétiques ». Ça lui a été évidemment refusé. L'OTAN qui de plus en plus se rapproche évidemment des frontières de la Russie et qui considère que réagir à ces provocations est une provocation. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où, bien évidemment, on voit des nouvelles frontières s'établir, des nouvelles barrières s'établir entre les deux Europes, et c'est ce qu'a indiqué le porte-parole du Kremlin. On est bien, effectivement, dans une redéfinition de deux camps, avec un discours d'ailleurs assez vieillot, hein, la démocratie contre donc les autres qui ne seraient pas démocrates, c'est une sorte de privatisation donc même du lexique, mais c'est classique dans le cadre d'impérialisme américain. Et puis en face, ce seraient donc les pays donc dits autocratiques. Mais notons que dans les pays qui sont invités, il y a l'Ukraine, dont le pouvoir en place, quel que soit le président, est issu d'un coup d'État dont, on va dire, le fer de lance sont des groupes d'extrême droite néo-nazis qui tirent sur des civils, donc ça s'appelle une démocratie selon le camp américain, et que le Kosovo est également invité, donc qui en droit international a juste un petit problème quant à sa dite indépendance, et dont tout le monde sait que c'est le cœur d'une mafia au sein de l'Union, au sein de l'Europe en général. La Serbie n'est pas invitée, puisque évidemment les élections en Serbie ne doivent pas être démocratiques selon les critères, peut-être parce que ce pays est ami avec la Russie.
Merci
et ne veut pas intégrer l'OTAN. Donc voilà, nous sommes bien, je vais conclure sur cela, nous sommes bien dans une situation qui fait qu'on redéfinit des lignes de séparation, et la Russie, l'URSS hier, la Russie aujourd'hui, donc fait bien partie de ce monde qui n'est pas démocratique. Le bloc occidental contre le bloc de l'Est, on y revient, mais est-ce qu'on l'a quitté? Je ne le pense pas. C'est peut-être la question qu'on pourra aborder également dans le débat.
Monsieur Dupré, votre lecture, s'il vous plaît, votre analyse.
Nous sommes clairement en présence de la volonté des États-Unis de recréer autour de leur puissance un certain nombre d'alliances qui ont pour principale caractéristique d'être ciblées contre la Russie et contre la Chine. Et la démocratie n'a que très peu à voir avec ce sommet virtuel qui aura lieu les 9 et 10 décembre. J'en veux simplement pour preuve ceci, c'est qu'un dirigeant en Europe comme Viktor Orban, on peut en penser ce qu'on en veut, il a de bonnes relations avec la Russie, il est exclu du sommet. En revanche, la Pologne, ce n'est pas un type de gouvernement, même sur le plan idéologique, ce n'est pas si différent que ça de ce que propose Viktor Orban. Eux seront invités au sommet, évidemment, puisqu'ils ont de mauvaises relations avec la Russie, et singulièrement le Bélarus. Donc il y a vraiment là une zone de tension. Donc finalement, le critère était moins la démocratie que l'animosité à l'égard de la Russie. Il en va évidemment même sur la question de la Chine, par exemple. Le simple fait que les États-Unis invitent à ce sommet Taïwan, alors même que Taïwan n'est pas considéré comme un État indépendant par les États-Unis, mieux que ça d'ailleurs, c'est à l'initiative de la rencontre dans les années, début des années 70 entre la diplomatie américaine et la Chine que Taïwan n'a plus représenté la Chine au Conseil, parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la Chine populaire, la vraie Chine, celle des 1 milliard d'habitants qui a occupé ce poste. Aujourd'hui, on invite Taïwan. C'est une provocation à l'égard de la Chine. Là encore, la démocratie a finalement peu de poids, peu d'importance pour les États-Unis. Je regarde aussi la liste des pays latino-américains qui n'ont pas été invités. On retrouve deux pays qui font l'objet aujourd'hui de sanctions de la part des États-Unis. Il s'agit de Cuba et du Venezuela. Le Venezuela qui, alors que Joe Biden était vice-président des États-Unis, on était en 2015, a été placé sur la liste des menaces pour la sécurité nationale des États-Unis. quand on connaît le rapport de force, la réalité du rapport de force militaire entre les États-Unis et le Venezuela, excusez-moi, cette inscription du Venezuela sur la liste des grands ennemis structurels des États-Unis, cela n'a aucun sens, ça ne correspond à aucune réalité. On notera également que la Bolivie n'est pas invitée. Alors là, c'est clairement un camouflet à la démocratie bolivienne, puisqu'en réalité, l'actuel président Luis Arce a bien été élu, et bien élu, sans aucune dénonciation de quelque fraude que ce soit par l'ensemble des États constitutifs du continent américain. Mais voilà, la Bolivie n'est pas alignée, la Bolivie n'a pas vocation, ne veut pas que son lithium soit exploité exclusivement par des grandes compagnies occidentales, et donc la Bolivie doit être pointée du doigt. Je regarde également la liste des pays africains qui sont invités aujourd'hui. Il n'y a pas un seul pays d'Afrique du Nord. Les seuls pays du Moyen-Orient, prochain Moyen-Orient, monde arabo-musulman qui sont invités, en réalité, ça va être l'Irak et au prochain Moyen-Orient, Israël. Cela dénote clairement l'orientation néocolonialiste de ce sommet. Et cela se confirme quand on regarde parmi la liste des pays africains, des pays d'Afrique subsaharienne qui ont développé par la force des choses de bonnes relations économiques avec la Chine et qui en ont tiré des bénéfices, tout en développant une démocratie libérale de type parlementaire. Je pense notamment au Bénin. Ce pays ne sera pas invité. Par contre, on note que toute une série de pays sont invités aujourd'hui et ils sont invités d'abord et avant tout parce qu'ils représentent une réserve importante de ressources naturelles, peu importe au demeurant les progrès réels de la démocratie, enfin de la version occidentale de la démocratie sur place. Donc nous sommes clairement en face d'un sommet qui se caractérise par une hostilité à l'égard de la Chine et de la Russie, et également par une manifestation d'ordre de volonté, des volontés de domination néocoloniale du Sud global. L'exclusion du Bénin et de la Bolivie en sont pour moi des exemples quand même particulièrement importants. Donc vraiment, ce sommet, c'est le sommet d'une tentative de recomposition de l'hégémonie américaine. Et je ne voudrais pas passer pour un prophète, je n'ai pas de boule de cristal. Cette hégémonie, si l'on regarde les fondamentaux de l'économie américaine, peu de production industrielle, beaucoup de spéculation, des inégalités galopantes, eh bien tout cela m'annonce que ce pari d'essayer de refaire émerger une hégémonie américaine avec un bouquet d'alliés importants à ses côtés, ce pari est déjà, à mon sens, voué à l'échec.
Merci. Monsieur Deber, en fait, s'agissant de notre région, le Moyen-Orient, Monsieur Dupré l'a dit, c'est le régime israélien qui est invité à ce sommet. Également, c'est l'Irak. Mais là également, de par cette attitude de Monsieur Deber, s'agissant de notre région, le Moyen-Orient, les États-Unis se contredisent, même lorsqu'il s'agit, par exemple, de leur tentative et de vouloir dire qu'ils veulent, si vous voulez, assurer le leadership mondial et également de promouvoir la démocratie dans le monde. Parce qu'en fait, les États-Unis, quand même, ont choisi comme leurs alliés les plus proches et les plus traditionnels, en fait, les pays qui n'ont pas été invités à ce sommet. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, par exemple, beaucoup d'autres régimes qui n'ont pas été invités, si vous voulez, à ce sommet, mais qui sont considérés comme les alliés les plus proches de Washington dans notre région, M. Burr.
Oui, mais il faut prendre en compte un élément important. Ce n'est pas Biden qui dirige en réalité. C'est la vice-présidente. Qui est la vice-présidente, à part être la meilleure alliée de George Soros? Je rappelle, lorsqu'elle était procureure en Californie, elle a sauvé son fils d'une poursuite judiciaire dans le cadre d'une faillite frauduleuse d'une banque. Depuis, d'ailleurs, elle a fait cela pour rentrer dans les petits papiers de Soros, et aujourd'hui, c'est elle, qu'est-ce que Soros, si ce n'est, et on voit très, c'est, ils vont réunir des dirigeants, tout est dit, secteur privé, démocratie, renouveau, tout ce qu'ils veulent. On a bien compris, le travail qu'ils ont et le travail qu'ils font, c'est dans le cadre aujourd'hui de la reconfiguration géopolitique qui met en péril la domination américaine, ils se reconcentrent, on va dire, sur une sorte de leur précaré. Et ils essayent de se redonner un leadership, croient-ils tout du moins. C'est pour ça qu'ils emploient les grands mots qui, pour moi, de la part des États-Unis, est un gros mot, à savoir démocratie, et qui... c'est pour ça qu'on voit effectivement qu'ils se recroquevillent sur leur pays client, en réalité, leur pays vassaux. Et voilà, c'est ça la réalité, parce que sur le terrain, bien évidemment, on sait très bien s'ils étaient pour la démocratie avec les bombes à l'américaine. Je ne pense pas que tous les pays qui ont goûté ont trouvé que c'était une façon intelligente de pouvoir les convaincre d'adopter une démocratie à l'américaine, allons-nous dire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui démontre que les États-Unis, effectivement, sont sur la défensive, mais ils sont sur la défensive parce qu'ils préparent l'offensive. Et l'offensive, c'est très simple, c'est désigner l'ennemi. C'est extrêmement clair. C'est la Chine, c'est la Russie, ce qu'ils appellent les régimes autocratiques. Mais pourquoi ils disent autocratiques ? Parce que ce sont des pays, comme d'ailleurs l'Iran, ce sont des pays qui ont comme conception de la liberté la souveraineté des États. Et pour les gens de Soros et pour les mondialistes à l'américaine, la liberté pour eux, c'est de faire ce que les individus veulent. Et en réalité, c'est la domination du capital partout. Mmh. Donc, tout ce qui va à l'encontre de leur politique, automatiquement, sont considérés comme non-démocrates. Aujourd'hui, on voit bien que nous sommes dans une opposition idéologique qui, en fait, cache quelque chose de très basique, qui cache l'impérialisme américain qui, toujours, cherche des différentes variantes ou avis afin de se présenter. Donc dans votre région, je conclurai dessus, dans votre région, on le voit bien, ils se basent sur Israël, puisque l'État sioniste d'Israël, qui est leur porte-avions dans la région, et sur l'Irak, et ça l'Irak, c'est spécifiquement pour plus embêter l'Iran qu'autre chose.
Merci. Monsieur Dupré, t'es toujours saisissant de la réaction du côté de Pékin. Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la démocratie n'est qu'une couverture, un outil permettant, si vous voulez, aux États-Unis de faire avancer leurs objectifs géopolitiques, d'opprimer d'autres pays, de diviser le monde et de servir leurs propres intérêts, M. Dupré.
Il est très clair que, quand on regarde la liste des pays qui ont été invités, on constate très clairement que, globalement, les États-Unis, non conviés à la table du banquet, passez-moi l'expression, que des alliés absolument sûrs, voire même parfois des alliés qui, s'ils ne devenaient pas sûrs, pourraient être facilement déstabilisés. C'est ainsi que, en clair, ce sont les trois gouvernements en Amérique latine qui ont affirmé leur souveraineté face à l'impérialisme américain qui sont aujourd'hui exclus de ce sommet. La Bolivie, Cuba et le Venezuela. Ah oui, le Salvador également. 4. Bien. Alors, dans ces conditions, on voit clairement que les États-Unis vont se servir du paravent, du prétexte des droits de l'homme pour opérer toute une série d'opérations de déstabilisation dans le meilleur des cas, médiatique ou organisé via des ONG locales, et peut-être aller plus loin dans des opérations militaires si la résistance qui est opposée est conséquente. On sent bien cela, ça c'est très clair. Vous savez, il faut pas être grand clair aujourd'hui pour comprendre que inviter l'Ukraine, c'est aussi quelque part dire qu'un gouvernement qui ne représente pas objectivement des valeurs démocratiques tout à fait fondamentales, vraiment tout à fait fondamentales. Ce n'est pas du tout une démocratie libérale occidentale. C'est leur droit, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, les inviter, c'est clairement une provocation à l'égard de la Russie. Et donc, dans ces conditions, on voit clairement que les États-Unis manifestent le désir de bétonner une alliance. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont un agenda à la fois géopolitique et aussi géoéconomique. Et là, vraiment,
On ne peut dire qu'une chose, si vous voulez rassembler aujourd'hui dans le monde multipolaire qui est en train de se dessiner, vous avez besoin au minimum, hein, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc forcément, toujours la Chine et la Russie.
Merci beaucoup.
Si vous les excluez, c'est que vous décidez qu'il y a des bons et des mauvais pays. C'est le retour de l'idéologie néoconservatrice des États voyous. Vous les retrouvez.
Merci beaucoup, M. Xavier Dupré, économiste, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Fabrice Beurre, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique conviennent en principe de résoudre les problèmes techniques, selon le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian a déclaré que Téhéran et l'AIEA sont parvenus à un accord de principe pour résoudre les problèmes en suspens. Le chef de la diplomatie iranienne a fait ses remarques lors d'un entretien en ligne avec son homologue chinois Wang Yi, ajoutant que l'Iran et l'agence cherchaient à publier une déclaration commune dans les plus brefs délais. Ces commentaires sont intervenus un jour après que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a même mis fin à une visite de 2 jours en Iran, au cours de laquelle il a eu divers entretiens avec des responsables iraniens, dont Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères, et Mohammad Eslami, le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Dans un tweet plus tôt, le haut diplomate iranien a qualifié ses entretiens avec le chef de l'AIEA de cordiaux, francs et fructueux, a déclaré qu'ils sont parvenus à de bons accords sur la poursuite de la coopération. Pourtant, on pourrait élaborer un texte. Nous avons besoin de travailler sur quelques mots. Un accord est possible, a-t-il ajouté dans son tweet, prévenant que la politisation des questions techniques est improductive. Il a également indiqué qu'une réunion se tiendra prochainement pour finaliser le texte de l'accord. Dans son entretien téléphonique avec son homologue chinois, Amir Abdollahian a également évoqué la participation de l'Iran au prochain pourparlers dans la capitale autrichienne de Vienne, qui ont examiné la possibilité de lever les sanctions inhumaines des États-Unis contre l'Iran. Amir Abdollahian a déclaré que la République islamique d'Iran était tout à fait disposée à participer aux négociations dans le but de parvenir à un bon accord. Un tel accord, a-t-il ajouté, pourrait se concrétiser sous peu si Washington et ses alliés européens dans l'accord, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne étaient également disposés à reprendre leurs engagements dans le cadre du plan global d'action conjoint. Le ministre chinois des Affaires étrangères, pour sa part, a qualifié le voyage de Grossi en Iran de développement positif. Il a également estimé que le point de vue de la République islamique d'Iran sur la relance potentielle du plan global d'action conjoint était juste. Le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, a déclaré lors de la 20e réunion du Conseil des chefs de gouvernement de l'OSS qui s'est tenue en ligne que l'organe était un exemple réussi de coopération régionale et stratégique et conforme à la promotion du multilatéralisme sur la scène internationale. Mokhber a remercié les États membres d'avoir accepté la demande d'adhésion à part entière de l'Iran cette année et a déclaré que l'Iran était prêt à achever son processus d'adhésion dans les plus brefs délais. Il a déclaré que l'Iran, en tant que membre responsable de la communauté régionale mondiale, bénéficie de nombreuses capacités, notamment une sécurité, une stabilité durable, de riches ressources énergétiques, une continuité géographique, une intégration nationale des liens historiques et culturels étendus avec les États membres de l'OSS. Est une culture riche qui empêche la croissance de l'extrémisme. Le vice-président iranien a également évoqué les avantages de l'Iran en matière de transport en raison de sa proximité avec la mer Caspienne au nord et le golfe Persique au sud, ce qui permet aux États membres de se connecter aux marchés mondiaux. Comme l'a annoncé le président Ebrahim Raisi, a déclaré Mokhber, la République islamique d'Iran attache beaucoup d'importance au renforcement des liens avec les pays de la région, en particulier pour faciliter le transport de la Chine, de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est vers l'Afghanistan, l'Asie centrale, le Caucase et la Russie. Il a distingué l'Afghanistan en affirmant que sans prêter attention aux motifs et aux défis de sécurité, la planification de la facilitation des investissements et de l'expansion de la coopération économique pour atteindre le développement durable et la sécurité ne serait pas possible. Il a mentionné plusieurs mécanismes économiques conçus par l'OSS, notamment le consortium interbancaire, le conseil des entreprises, la banque de développement et le club de l'énergie, et a déclaré que l'Iran se félicitait de tous ces mécanismes et était prêt à activer toutes ces activités pour atteindre les objectifs des mécanismes. Le Hezbollah a condamné fermement la décision des autorités australiennes de le désigner comme organisation terroriste. Il s'agit d'une soumission servile aux dictats américains et sionistes et d'une implication aveugle au service des intérêts israéliens et de sa politique basée sur le terrorisme, les meurtres et les massacres, a-t-il déploré dans un communiqué. Et de poursuivre cette décision et les précédentes décisions similaires qui ont été prises par certains pays occidentaux et illustrant leur hostilité au peuple de cette région et à leur juste cause, dont leur droit à la libération et à l'indépendance, n'affecteront pas le moral de notre fidèle peuple libanais, ni le moral des gens libres et honorables du monde entier, ni la position du Hezbollah et son droit légitime à résister, à défendre son pays et son peuple, ni son soutien au mouvement de résistance contre l'occupation et l'agression sioniste. Le gouvernement australien s'est enfin plié aux ordres des Israéliens et a classé tout le Hezbollah comme organisation terroriste, étendant à l'ensemble du groupe de la résistance libanaise cette qualification qui ne portait jusqu'alors que sur ses branches armées. Nous sommes capables de bombarder toutes les villes occupées. Les drones sont disponibles à
Et Gazar a souligné le secrétaire général du djihad islamique et palestinien Ziad Nakhala. Il a prévenu que tout assassinat d'un membre ou d'un chef du djihad islamique fera l'objet d'une réponse immédiate contre Tel Aviv. Dans une interview avec la télévision libanaise Al-Mayadin, Al-Nakhala a fait savoir que la décision d'opération militaire contre l'occupation est présente de façon permanente et continue, soulignant qu'il n'y a pas de limite géographique au travail de la résistance palestinienne sur l'ensemble de la Palestine. Il a salué la récente opération Al-Rots occupée et déclaré que l'opération commando menée par Sheikh Fadi Abou Sheikh Dem a été une leçon pour l'occupation et ses outils, et d'ajouter la résistance présente sur le terrain est prête à toute confrontation. Les menaces de l'occupation ne changeront pas les règles du travail de la résistance, a-t-il souligné. L'occupation connaît très bien les capacités de la résistance et la volonté de milliers de combattants à infliger des pertes dans les rangs des ennemis, dans les batailles à venir, soulignant que la résistance est capable de bombarder toutes les villes occupées au même moment, a lancé le chef du djihad islamique, et de révéler les drones armés sont désormais disponibles dans la bande de Gaza et il existe des ateliers pour leur fabrication. Nakhala a en outre critiqué la coopération entre l'autorité palestinienne et de l'entité israélienne. Ce que l'autorité palestinienne fait actuellement en Cisjordanie n'est pas une tâche honorable. Il est clair que la coordination sécuritaire a joué un rôle dans l'arrestation des 6 membres du tunnel de la liberté. S'adressant aux combattants de la résistance dans le camp de réfugiés de Jenin et en Cisjordanie, il les a appelés à poursuivre leur lutte et mission, quelles que soient les difficultés. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.